Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 15 février 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Le leader salue la participation historique des Iraniens à la marche du 11 février. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, mettant en relief la présence massive de la nation iranienne dans la marche de l'anniversaire de la révolution islamique d'Iran, l'Ayatollah Khamenei rend hommage au peuple iranien pour sa présence. La Chine maintiendra inébranlablement son amitié et sa coopération avec l'Iran, déclaration du président chinois. Et puis la rencontre entre le président Raïsi et les élites chinoises à l'université de Pékin. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, a salué la forte participation au rassemblement marquant le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran. L'Ayatollah Khamenei a déclaré qu'il estimait nécessaire de rendre hommage aux Iraniens pour avoir participé au rassemblement qu'il a qualifié d'historique. Il a décrit la participation du peuple à l'échelle nationale comme une valeur et une preuve d'allégeance à la République islamique. Le samedi 11 février a été historique. Les gens ont créé très précisément une épopée dans tout le pays. La campagne de propagande, les problèmes que les gens ressentent, les provocations des ennemis, le temps glacial et la température en dessous de zéro dans certaines parties du pays, tout cela a été stigmatisé par la chaleur, de la foi et de la perspicacité du peuple iranien, s'est-il félicité. L'Ayatollah Khamenei a fait ses remarques lors de sa rencontre avec un groupe de personnes de la province de l'Azerbaïdjan oriental à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement de 1978 contre le régime Pahlavi. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine maintiendrait inébranlablement son amitié et sa coopération avec l'Iran, quels que soient les développements régionaux et internationaux. Xi Jinping s'est exprimé lors d'une rencontre avec le président iranien Ebrahim Raisi, arrivé mardi matin à Pékin, à la tête d'une délégation politico-économique de haut rang. Peu importe le rythme des évolutions, des situations internationales et régionales, la Chine maintiendra inébranlablement son amitié et sa coopération avec l'Iran et fera progresser le partenariat stratégique global Chine-Iran, a-t-il déclaré à l'adresse de son homologue iranien. Il a ajouté que Pékin soutient l'Iran dans la protection de ses droits légitimes en matière nucléaire. Monsieur Xi a également souligné la détermination de Pékin à approfondir la coopération avec l'Iran dans les domaines du commerce, de l'agriculture et des infrastructures. Plus tôt dans la journée, Ebrahim Raisi a été officiellement accueilli par Xi Jinping après son arrivée en visite d'État en Chine. Après la cérémonie de bienvenue, l'Iran et la Chine, lors d'une réunion de délégations de haut rang en présence des présidents des deux pays, ont signé 20 documents et mémorandums d'accord pour élargir davantage la coopération dans divers domaines. Selon les documents, Téhéran et Pékin amélioreront leur coopération dans différents secteurs, notamment la gestion des crises, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, l'environnement, le commerce international, la propriété intellectuelle, l'agriculture, les exportations, la santé, les médias, les sports et le patrimoine culturel. Pour le président iranien qui a également rencontré le premier ministre chinois Li Keqiang, le document de partenariat stratégique global entre la République islamique d'Iran et la Chine est un symbole de la volonté des deux pays de développer les relations bilatérales. S'adressant aux journalistes avant de quitter Téhéran pour Pékin lundi, Raisi a déclaré que l'Iran et la Chine avaient des vues similaires sur la lutte contre l'unilatéralisme au niveau international. Cette visite marque la première visite du président Raisi en Chine après son entrée en fonction en août 2021. Sachez également qu'au cours de la deuxième journée de sa visite en Chine, le président Raisi s'est rendu à l'université de Pékin en vue de rencontrer les élites et les professeurs chinois. Lors de la cérémonie d'accueil du président Raisi, deux étudiants chinois ont récité des poèmes en persan pour le chef du gouvernement iranien. Lors de cette visite, le titre honorifique de professeur honoraire a été octroyé au président Raisi par le président de l'université de Pékin. Le titre de professeur honoraire de l'Université de Pékin est offert au président Raisi à cause des actions que le chef du gouvernement iranien a menées dans le cadre du renforcement des relations irano-chinoises, ainsi que du maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde, a déclaré le président de l'université. S'adressant aux professeurs et aux étudiants de l'Université de Pékin, le président Raisi a souligné que la formation d'un nouvel ordre mondial nécessite de renforcer le multilatéralisme en s'appuyant sur une synergie maximale et solidaire. Toujours dans son discours à l'Université de Pékin, Ebrahim Raisi a évoqué le contexte historique des relations irano-chinoises et ajouté « La Chine a accès aux autres parties du monde par l'ancienne route de la soie. Cette prospérité se réalise grâce au passage de cette route commerciale à travers la terre de l'Iran. La route de la soie n'est pas seulement la voie la plus importante pour faciliter le commerce et la coopération entre les différents pays, mais aussi comme un fil culturel qui a relié différentes sociétés ensemble à travers l'histoire. » Créée sous le nom d'Université impériale de Pékin en 1898, l'Université de Pékin était la première université nationale polyvalente de Chine. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, elle s'est développée en une université complète avec une éducation fondamentale et des recherches en sciences humaines et dans d'autres domaines. La rencontre entre Raisi et les élites chinoises est d'une grande importance en vue d'améliorer la vision des décideurs politiques de ce pays à l'égard de l'Iran, tenant compte de la relation étroite entre l'intelligentsia chinoise et les centres de pouvoir en empire du milieu. Les ministres iraniens et chinois des Affaires étrangères se sont également rencontrés à Pékin. Les deux ministres ont échangé des vues sur des questions importantes pour le développement et le renforcement de la coopération irano-chinoise. Selon l'édition francophone de Chinois, le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian ce mardi à Pékin. La Chine est disposée à travailler avec l'Iran pour approfondir la coopération pragmatique, renforcer les échanges entre les peuples, mettre en œuvre les derniers consensus atteints par les deux chefs d'État et pousser à de nouveaux progrès pour le partenariat stratégique global Iran-Chine, a insisté le chef de la diplomatie chinoise. Enfin, plusieurs chefs d'État félicitent Ebrahim Raïssi à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Les chefs de différents États ont envoyé des messages séparés au président iranien pour le féliciter à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Les présidents du Kazakhstan, du Turkménistan, de la Thaïlande, de la Turquie, de l'Indonésie, du Kirghizistan, de la Corée du Sud, de la Croatie, du Tadjikistan, de l'Algérie, du Japon, de la Mauritanie, des Émirats arabes unis, de l'Ouzbékistan, de Singapour, de la Russie, de la Syrie, de Cuba, de la Chine, de l'Irlande, de l'Arménie, en envoyant des messages séparés à l'ayatollah Ebrahim Raïssi, ont félicité le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Le leader de la révolution islamique d'Iran salue la participation historique des Iraniens à la marche du 11 février. Lors d'une audience accordée ce mercredi 15 février à des habitants de la province de l'Azerbaïdjan de l'Est qui se sont recueillis à Téhéran au seuil de l'anniversaire du soulèvement des habitants de Tabriz le 18 février 1978, l'honorable Ayatollah Khamenei a rendu hommage à la participation historique des Iraniens à la marche grandiose du 11 février qui a marqué le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Le samedi 11 février était historique. Les gens ont précisément créé une épopée à travers le pays. La campagne de propagande, les problèmes que les gens ressentent, les provocations des ennemis, le temps glacial et la température en dessous de zéro dans certaines parties du pays ont tous été stigmatisés par la chaleur de la foi et de la perspicacité du peuple iranien, s'est-il félicité. L'Ayatollah Khamenei a également souligné que la nation iranienne avait transmis le message de son soutien total à l'ordre islamique à travers sa participation à la marche du 11 février. Le message de la nation iranienne à l'occasion de la marche du 22 Bahman, calendrier iranien, était un soutien total à la révolution islamique et à l'ordre de la République islamique. C'était plus fort que toutes les voix, a déclaré le leader. Bien sûr, il y a et il y a eu des voix opposées et dissidentes. Les ennemis, l'empire mondial des médias, qui est entre les mains des sionistes et des Américains, ont essayé de faire prévaloir les voix opposantes. Mais non, ils ne pouvaient pas. La voix de la nation a prévalu sur la voix des autres. L'Ayatollah Khamenei a évoqué les émeutes déclenchées dans le pays. L'un des principaux objectifs des émeutes de cet automne à Téhéran et dans d'autres villes était de faire oublier au peuple ce même 11 février. Mais les gens ont préservé et sont venus. Cette persévérance est bénie. Ce qui octroie à la nation son identité, sa grandeur, c'est sa résistance et son endurance. Il ne faut pas défaillir, désespérer, il ne faut pas se laisser intimider par les fanfaronnades de l'ennemi, a-t-il préconisé. Certains pensaient que la République islamique est dans l'impasse. Eh bien, si nous sommes dans une impasse, pourquoi l'ennemi dépense-t-il autant d'argent pour nous renverser? Si un gouvernement est dans l'impasse, il est utile de dépenser autant de moyens pour le renverser. Il se renversera tout seul, a-t-il indiqué. et d'ajouter « Des milliards de dollars sont dépensés dans le monde pour dérouter la République islamique. Ils en parlent ouvertement. Pourquoi font-ils cela si nous sommes dans l'impasse, si nous sommes en train de nous effondrer comme ils veulent le faire croire? Ils n'ont pas besoin de dépenser autant d'argent. » Les progrès de la nation iranienne, des différents secteurs tels que la défense, l'industrie et les infrastructures ont exaspéré l'ennemi, a souligné encore le leader de la révolution islamique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. 11 février, aujourd'hui, les Iraniens étaient en masse dans les rues à travers tout le pays afin de célébrer le 44e anniversaire de la révolution islamique d'Iran. Malgré toutes les pressions, les sanctions de part et d'autre, les Iraniens sont là, plus unis que jamais. Nous allons évoquer ce sujet dans ce débat avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les États-Unis et les trois signataires européens de l'accord sur le nucléaire de 2015 avaient commis de graves erreurs de calcul en provoquant les récentes émeutes en Iran, soulignant que leur tentative en cours pour ternir l'image de la République islamique était toute vouée à l'échec. Le président Raisi a fait ses remarques lors d'une réunion jeudi 9 février avec un groupe d'ambassadeurs étrangers en République islamique à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Il a affirmé que l'Iran, malgré le non-respect par les parties occidentales de leurs engagements dans le cadre du plan d'action globale conjoint PGAC, s'est toujours déclaré prêt à finaliser les négociations de Vienne pour parvenir à un accord bon et équitable sur la relance de l'accord de 2015 et la levée des sanctions. Le président iranien a en outre affirmé au cours des derniers mois « Nous avons assisté à une nouvelle vague de complots étrangers hybrides et d'ingérence de certains pays occidentaux en Iran. Via les sanctions et une campagne de désinformation, ces pays ont mené une guerre psychologique hybride. Lors de récents troubles, a-t-il indiqué, certains ont tenté de ternir l'image de l'Iran par des informations complètement trompeuses. De telles tentatives sont toujours en cours, mais sont toutes vouées à une défaite ignominieuse. Les puissances arrogantes n'ont reculé devant aucun complot diabolique contre l'établissement islamique iranien depuis que la révolution islamique est sortie victorieuse en 1979. Elles ont soutenu le dictateur irakien déchu Saddam Hussein pendant la guerre de 1980-1988 imposée par l'Irak à l'Iran et nous ont imposé plusieurs séries de sanctions, a-t-il poursuivi. Il a noté une amélioration du statut des femmes iraniennes et de leur participation dans différents domaines, citant des statistiques qui montrent une avancée significative du rôle des femmes dans la société. Nous sommes prêts à avoir des discussions avec différents pays sur les droits de l'homme. Or, les soi-disant défenseurs des droits de l'homme en Occident doivent être tenus responsables de leur bilan catastrophique. Le double standard et les approches discriminatoires ne parviendront pas à améliorer le statut des droits de l'homme et constitueront au contraire de sérieuses menaces pour les principes humains. Plus loin dans ses propos, le président iranien a rappelé que l'Iran a toujours soutenu la stabilité, la sécurité et le développement de la région et estime que la sécurité et les progrès régionaux sont étroitement liés à la stabilité de l'Iran. Le soutien de l'Iran à la nation palestinienne et sa cause légitime sont indéfectibles. Le régime d'occupation de Tel Aviv est le principal responsable du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies dans la région de l'Asie occidentale.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons deux invités d'honneur. Il s'agit d'Imadeddine Amrouni, expert des questions politiques, qui est avec nous par Skype depuis Paris. Également, nous sommes avec Madame le docteur Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban. Je vous dis bonjour également à Monsieur Amrouni et Rada Oubala. Monsieur Amrouni, si vous voulez bien, on commence avec vous en ce qui concerne 44 ans de victoire de révolution islamique malgré toutes les émeutes, les pressions, les complots. L'Iran a traversé récemment une période difficile d'émeutes engendrées par l'Occident. Bien sûr, il y a des manifestations des Iraniens, mais ces émeutes ont été en fait engendrées par l'Occident. Donc, dans un premier temps, comment interprétez-vous cette union et aussi ces 44 ans de révolution ?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, permettez-moi de présenter mes meilleures salutations, félicitations pour le peuple iranien, pour le but suprême de la révolution islamique et pour cette nouvelle génération de la révolution islamique et iranienne. Vous savez, le 11 février 1979, c'était le premier jour de l'indépendance de l'Iran. C'était la fin de la tyrannie et le début de la réalisation de la volonté populaire. La révolution islamique iranienne, c'est une révolution d'abord du peuple iranien. Et donc, on a vu pendant ces quatre décennies, à chaque fois qu'il y a une pression, à chaque fois il y a la guerre, il y a eu la guerre pendant 8 ans, le peuple iranien, il a donné ses enfants, ses meilleurs savants pour l'indépendance de l'Iran, contre l'invasion irakienne, mais aussi américaine. Après, c'était les embargos, les sanctions. Donc, à chaque fois, à chaque étape, on voit que le peuple iranien, il est prêt à sacrifier, à donner des sacrifices. Et c'est ça, le premier leçon qu'on a de cette révolution, c'est que le peuple garde de l'espérance. C'est-à-dire, malgré tous les problèmes, la République islamique d'Iran, elle n'est pas parfaite, mais le peuple iranien, il soutient le gouvernement islamique. Et c'est ça, la force et le maintien de la révolution islamique en Iran et ailleurs. Donc bravo, bravo pour ce peuple. Nos salutations pour les familles des martyrs de la révolution islamique iranienne, parce que sans ces familles-là, la révolution islamique n'aura pas pu réaliser toutes ses victoires, la victoire militaire, la victoire sociale, la victoire scientifique, la victoire culturelle, et d'abord et surtout la victoire de la dignité populaire, c'est-à-dire ce peuple iranien, il a une dignité et il défend sa dignité. On l'a vu aujourd'hui, des millions d'Iraniens dans toutes les grandes villes iraniennes, elles sortent avec les drapeaux iraniens, avec les photos de l'imam Khamenei et l'imam Khomeini. Ça montre le lien entre le peuple et le guide, le lien entre le peuple et son élite révolutionnaire. Et ça, il n'y a pas d'autre peuple. En vérité, on voit beaucoup de entre parenthèses, des révolutions dans le monde, mais au bout de quelques années, les Américains arrivent à récupérer toutes ces révolutions. On l'a vu dans le monde arabe, dont en 2011, la population arabe elle a essayé de se révolter, d'avoir leur indépendance, mais malheureusement, l'élite de ce monde arabe, c'est une élite qui n'est pas à la même hauteur de l'élite iranienne, qui n'est pas à la même hauteur des sacrifices du peuple iranien. Et donc, le résultat d'aujourd'hui, on dit bravo au peuple iranien.
Merci, M. Amrouni. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Mme Rada Oubala, j'espère que vous allez bien et merci de nous avoir accordé votre temps. Pour vous, que signifient ces 44 ans de résistance, d'union du peuple iranien, malgré toutes les pressions, malgré toutes les sanctions et les complots perpétrés contre la nation iranienne?
Oui, alors bonjour à vous et à votre invité. Et bien entendu, on ne peut pas ne pas s'incliner pour face à cette révolution qui se poursuit toujours. Bon, moi je vais parler en termes géopolitiques, ok. Plusieurs questions, et là vous allez me permettre de me donner un petit peu le temps, c'est-à-dire je vais parler en termes occidentaux, loin de mon affection vis-à-vis de cette révolution et de ce qu'elle représente par rapport au monde islamo-arabe. Une révolution, c'est d'abord un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État. Elle se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder. Les principes de la révolution, n'importe quelle révolution, même au niveau de la Révolution française, qui, il faut le dire, on peut être contre la France, on peut être contre la politique française, on peut être contre la révolution iranienne, la révolution de Che Guevara, etc. Mais toutes les révolutions comportent d'une certaine manière des titres qui sont en relation avec l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales, la souveraineté de la nation, etc. etc. Donc, la différence entre une révolte et une révolution, et c'est ça qui est important, la révolution iranienne n'est pas une révolte, puisqu'une révolte, elle est viscérale, elle est immédiate. Donc si on veut comparer la révolution iranienne avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est totalement différent. Okay ? Deuxièmement, dans une révolution, qui est l'acteur essentiel, c'est le peuple. Avec la révolution, le peuple acquiert des droits politiques. Et les sujets deviennent aussi des citoyens. Donc, ils deviennent membres d'une nation qui est détentrice d'une souveraineté. Or, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un avant et après la révolution iranienne dans les relations internationales. La révolution islamique a en effet bouleversé les relations internationales en rompant sans concession avec un passé impérial qui était placé sous la tutelle américaine, d'abord en soutenant la cause palestinienne contre l'entité sioniste, en affirmant son indépendance et son projet révolutionnaire de libérer tous les musulmans des despotes qui les gouvernaient. Donc, la révolution de 79 s'inscrit dans une époque qui était dominée, il ne faut pas oublier, par la guerre froide, donc par une lutte contre l'impérialisme américain et l'émergence des pays du tiers-monde. Il n'y avait pas encore une forme d'axe de la résistance, ce qu'on appelle aujourd'hui. L'une des conséquences géopolitiques, si on veut traduire quelles sont sur le terrain une victoire au niveau international ou régional de la révolution de 1979, c'est le fait qu'il y a eu un axe de la résistance islamique. Donc, l'émergence des pays du tiers-monde, des réalités politiques que l'on retrouve dans la devise du nouveau régime.
Madame Oubala, je pense que la connexion a été coupée. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je pense que la connexion a été coupée avec Madame Oubala en attendant que mes collègues rétablissent la connexion. Monsieur Amrouni, je m'adresse à vous. Et à votre avis, en fait, ce message dont vous avez évoqué également, mais aussi Madame Oubala, que le peuple iranien a fait passer à l'Occident à travers sa présence à aux marches du 22 Bahman aujourd'hui de la révolution islamique, de l'anniversaire de la révolution islamique, Les jours à venir, les mois à venir, la perspective des évolutions, à quoi devrait-on s'attendre en ce qui concerne les réactions de l'Occident? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à plus de pression parce qu'il y aura peut-être la panique au sein de l'axe américain et occidental?
Vous savez, cette révolution, elle a montré, comme on a dit tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il y a un plan de déstabilisation, la révolution islamique en Iran, le gouvernement islamique, les responsables. Il faut saluer tous les responsables iraniens, que ce soit les hauts responsables ou les responsables dans les villes, dans les mairies, dans certaines entreprises. Tout cet effort très important, très intense, c'est-à-dire il faut avancer, en même temps supporter la pression. Et donc, ils ont acquis cette expérience. C'est une expérience unique.
Oui, allô.
Et maintenant, on voit que la Russie, elle profite de l'expérience iranienne. Donc, la résistance à l'intérieur même de l'Iran, elle est très importante à faire fléchir, si vous voulez, tous les plans occidentaux. Et donc, on voit déjà que les États-Unis, la Grande-Bretagne, même la France, l'Allemagne, commencent à s'affléchir, commencent à changer, si vous voulez, d'optique et de tactique, et peut-être revenir à la négociation dans le cadre de l'accord nucléaire iranien. Et donc, à chaque fois que le peuple résiste, à chaque fois que les responsables iraniens montrent leur solidarité, montrent leur force et leur volonté, et donc, au prix fort, bien sûr, il faut le dire, au prix fort de beaucoup de sacrifices, et donc, cette révolution, elle n'a pas peur de donner des sacrifices, elle avance au niveau géopolitique, elle a de la force, de l'influence, ce n'est pas simplement dans la région du Moyen-Orient, mais c'est une force au niveau international. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran est membre actif du changement du système mondial. Donc, c'est très important dans l'avenir de compter avec l'Iran. C'est-à-dire, dans l'avenir, l'Iran a son mot à dire dans la région et dans le monde.
Merci, Monsieur Amrouni. Madame Oubala, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Très bien, merci beaucoup. On vous écoute, la connexion a été coupée, donc on vous écoute la suite de votre analyse.
Oui, alors j'étais en train de dire que justement la révolution de 1979 s'inscrit dans une époque qui était dominée par la guerre froide et par une lutte contre l'impérialisme américain. Et avec aussi, c'est une époque qui était dominée par l'émergence de pays du tiers-monde. Ce qu'il faut souligner, c'est que la devise ce qu'on appelle le nouveau régime islamique, indépendance, liberté, république islamique. Chaque terme a sa place et définit chacun l'un des trois cercles de la géopolitique iranienne. Les 15 pays frontaliers à l'Iran, le cercle des 15 pays frontaliers donne la priorité à l'indépendance, au nationalisme et au territoire. Celui de l'islam recoupe en partie le cercle précédent, c'est-à-dire concerne le monde musulman, qui est un espace culturel, idéologique et régional qui est beaucoup plus vaste. Ce qu'il faut souligner dans cette révolution, c'est que, regardez le terme, observez bien, là je donne une analyse à propos du terme. On appelle la République islamique de l'Iran. Autrement dit, quand on dit le terme république, qui est un terme qui a été inventé par la Révolution française, dont on parle jusqu'à aujourd'hui, ok ? République, ça veut dire le peuple. Et quand j'ai fait mon introduction, quand j'ai parlé que qui est l'acteur essentiel d'une révolution, c'est le peuple, puisque le peuple acquiert des droits politiques. Le peuple devient un citoyen, des sujets qui sont membres d'une nation qui est détentrice de souveraineté. D'accord ? Donc, quand on parle un régime islamique, comme par exemple la monarchie de l'Arabie Saoudite, c'est un régime, c'est une monarchie, il n'y a pas de droit. Mais quand on est en train, c'est là qui est très important, quand on est en train de lier le terme islam et le terme république, qui dans la révolution française et dans la pensée de tout l'Occident ne concordent pas. C'est-à-dire pour eux, islam ne peut pas être synonyme des droits des peuples. Donc on ne peut pas lier le terme république avec le terme islam. Or, qu'a fait la révolution islamique ? Elle a bouleversé le champ des notions géopolitiques dans la sociologie politique de Max Weber et de tous les grands penseurs politiques en Occident. Elle les a complètement bouleversés. Donc, il faut faire très attention. C'est une révolution intellectuelle, politique et géopolitique que la révolution islamique est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là le danger que représente la révolution islamique par rapport à l'Occident. C'est non, pas seulement ses exploits militaires, pas seulement le fait qu'elle peut être source d'inspiration, parce qu'attention, la révolution islamique n'a jamais voulu être, elle n'a pas besoin d'exporter. Une révolution, par définition, n'est pas exportable. Une révolution peut être une source d'inspiration. Donc là aussi, quand l'Occident est en train d'accuser la révolution islamique de vouloir exporter, mais c'est contraire justement à la définition qu'il donne à la révolution. Donc, la révolution iranienne de 1979, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi à prouver, contrairement à tout ce que tente de faire l'Occident de diffamer ou de vider l'islam de son sens politique, mm-hmm. C'est que qui dit islam dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc oui, quand on parle république, islam, la république islamique de l'Iran, c'est la république aussi, il y a la république du Liban, il y a la république française, donc le terme république avec le terme islam, c'est la plus grande victoire que la révolution de 1979 a inscrite au 20e et au 21e siècle. C'est ça qu'il faut retenir. Mmh.
Merci, Madame Oubala. À votre avis, donc, vous avez un regard géopolitique aux choses en ce qui concerne les évolutions de la région, les avancées de l'axe de la résistance de l'Iran, de ses alliés, de ce rapprochement, de ces rapprochements, de ces renforcements de liens et de l'affaiblissement des positions américo-israéliens dans la région. À quoi devrait-on s'attendre dans les mois, voire les années à venir?
Malheureusement, je vais être un petit peu pessimiste parce que là aussi, je me pose par rapport, je mets une carte géopolitique devant moi et je constate que la représentation géopolitique géopolitique, quand je parle de représentation géopolitique de chacun des États, c'est-à-dire que ce soit de la République islamique de l'Iran, de l'axe de la résistance, de la France, de l'Union européenne, des États-Unis, elle est très divergente. Par rapport aux États-Unis, leur quand je dis représentation géopolitique, c'est-à-dire leur vision de la gestion du monde selon leurs intérêts, elle est totalement différente. La vision de gestion du monde, que ce soit de la Chine ou de la Russie, elle est multilatérale, premièrement, donc, et elle doit prendre en compte les intérêts de chacun des pays. Idem par rapport à la République islamique de l'Iran, qui en plus ajoute quelque chose, c'est qu'il est du devoir des États de venir en aide ou de l'apporter de l'aide contre les peuples opprimés, quelle que soit leur religion, quel que soit leur régime, etc. En premier lieu, bien entendu, la cause palestinienne. Par rapport, au contraire, aux États-Unis, leur vision de la gestion du monde est une vision unilatérale. Preuve à l'appui, les sanctions qui sont en train de justement de les sanctions unilatérales qui n'ont rien à voir avec l'action coercitive que peut faire le Conseil de sécurité en utilisant justement des sanctions pour réprimer ou empêcher une guerre. Là, ça n'a rien à voir. Ils sont en train d'utiliser des sanctions contre tout pays qui tente de s'opposer à l'hégémonie des États-Unis, que ce soit une hégémonie économique, comme c'est le cas par exemple de la Chine, ou que ce soit sur le terrain, que ce soit par exemple avec la République islamique de l'Iran ou par rapport à la Russie. Et là, malheureusement, l'Union européenne, qui a toujours dans son inconscient des peuples, ou plutôt dans l'inconscient de ses gouvernants, cette tentation d'être impérialiste, malheureusement également, elle est en train d'imposer, ou plutôt, elle n'a plus cette vision d'être libre ou de pouvoir défendre les droits des peuples de disposer d'eux-mêmes, comme c'était le cas dans le début de leur révolution. Et donc, on a deux visions qui sont totalement très contradictoires. Soit les deux vont négocier, et je doute fort que cela puisse se passer, soit au contraire, nous allons vers une situation explosive.
Merci pour vos explications.
Attention, une situation explosive qui ne sera jamais, et là c'est vraiment, je souligne en rouge, provoquée par l'axe de la résistance, parce que c'est justement contraire à leurs principes religieux, que ce soit pour la République islamique de l'Iran, pour le Hezbollah. Et si on veut parler de la République de la Syrie, qui n'est pas islamique, c'est contraire justement à tous les principes du parti Baas.
Merci pour vos explications, Rada Oubala. Monsieur Amrouni, nous avons près de deux minutes devant nous. Le mot de la fin et la conclusion est à vous.
Vous savez, on a parlé longuement du peuple iranien. Et la richesse de la révolution islamique, c'est le peuple iranien. Donc il faut que la priorité de tous les gouvernements qui vont venir, et surtout le gouvernement de M. Raisi, donner la priorité pour le peuple iranien, c'est-à-dire la priorité de la justice sociale. Il faut accentuer la justice sociale. Malheureusement, les dernières décennies, cette justice sociale, il y a eu un déséquilibre à l'intérieur même de la société iranienne. Deuxièmement, il faut écouter la jeunesse iranienne. Il faut changer, c'est-à-dire la terminologie de cette révolution et donner de l'espace à la femme iranienne et donner de l'espace à cette nouvelle génération iranienne. Et donc le peuple iranien doit vivre dans la justice de la République islamique iranienne, comme votre invité de Beyrouth l'a bien dit, c'est-à-dire on est en République, le peuple, et on est islamique, donc l'islam c'est la justice sociale. Deuxièmement, pour avoir cette justice sociale, il faut avoir des réformes économiques, c'est-à-dire il faut s'intéresser à l'économie, et même le guide suprême de la révolution islamique, il a plusieurs fois annoncé l'économie nationale, cette économie de résistance. Il faut établir des entreprises, il faut amener des investissements et donc il faut élargir diplomatiquement la relation diplomatique, économique et culturelle avec les populations autour de l'Iran, c'est-à-dire dans la région du Moyen-Orient, mais surtout avec l'Afrique et l'Amérique latine.
Oui, Madame Oubala, on vous écoute.
Je ne suis pas d'accord avec votre invité concernant l'espace qui doit être donné à la femme. Je pense que la République islamique de l'Iran, je sais de quoi je parle, puisque moi-même qui vis soi-disant dans un pays, le Liban, et je suis franco-libanaise, soi-disant on est un pays très ouvert, etc., etc., je peux vous dire que la femme n'a aucun droit au niveau, pas aucun droit, mais elle n'a pas, on lui donne pas le droit de participer à la vie politique. Elle doit être soit la veuve d'un politicien, soit le frère, soit la sœur d'un politicien pour pouvoir accéder au Parlement ou avoir une voix. Par contre, par rapport à la République islamique de l'Iran, le rôle de la femme, et là je reviens à un discours de l'imam Khomeini, qui a bien souligné que sans les femmes, la révolution islamique n'aurait jamais eu lieu. En fait, ce sont les femmes qui sont descendues à la rue, puis ensuite les hommes ont suivi les femmes. Donc la révolution islamique a d'abord été conduite par des femmes. Idem pour la révolution française, où aussi, mm-hmm. Certains disent que la femme a joué un rôle. Sans doute parce que la femme a des sentiments et donc elle est assez enflammée. Mais l'espace dont parle votre invité, avec tous mes respects pour tous ces propos dont je suis d'accord, il est déjà accordé par rapport à la République islamique de l'Iran. Maintenant, si on veut parler par rapport aux voix, c'est une autre affaire. Là, on est en train de parler législation. Ça n'a rien à voir avec l'analyse
Merci
géopolitique
beaucoup.
De la révolution islamique. Oui. Voilà.
Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Les Iraniens ont participé samedi 11 février au rassemblement de commémoration du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en 1979. Mettant fin au règne du régime Pahlavi, soutenu par les États-Unis. Ils se sont également réunis pour renouveler leur allégeance aux idéaux de la révolution. La révolution islamique, dirigée par le défunt imam Khomeini, a établi un nouveau système politique basé sur les valeurs islamiques et la démocratie. La célébration a eu lieu à Téhéran et dans plus de 1 400 villes et 38 000 villages à travers le pays. S'adressant à des foules de personnes sur la place Azadi à Téhéran, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la politique occidentale d'imposition de sanctions et de pression maximale sur la République islamique avait échoué grâce à la résistance de la nation iranienne. Les manifestants ont souligné la nécessité de préserver l'unité nationale et d'éviter toute mesure susceptible de fomenter la division et la sédition dans le pays. Les observateurs estiment qu'après 44 ans depuis la victoire de la révolution islamique et malgré différentes formes de conspiration contre la révolution islamique, l'Iran est maintenant devenu une lueur d'espoir pour les nations en quête de liberté et les nations opprimées du monde. La pression extérieure et les sanctions ne sont pas un obstacle à la coopération entre Moscou et Téhéran. Au contraire, les restrictions illégales continues ne font que renforcer les tendances positives dans les relations bilatérales émergées au cours des dernières années, a déclaré lundi 13 février la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. En réaction aux déclarations du président français Emmanuel Macron, elle a souligné que la Russie et l'Iran cultivent une coopération mutuellement bénéfique, quelle que soit l'opinion de l'Occident. Il est à noter que Macron a récemment prétendu que le soutien de Téhéran à Moscou pourrait exposer l'Iran à des sanctions et un isolement croissant. Selon Maria Zakharova, le commerce russo-iranien en 2022 a bondi de 20,2%, dépassant les 5 milliards de dollars. Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a qualifié samedi 11 février un éventuel accord d'échange de pétrole et de gaz entre l'Iran et la Russie de projet prometteur. Il avait précédemment indiqué qu'une première étape de l'accord pourrait permettre à la Russie d'offrir jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 5 millions de tonnes de pétrole à l'Iran pour livraison de la même quantité à d'autres pays de la région dans le cadre d'un accord d'échange. Dans le cadre d'un accord similaire, l'Iran importe actuellement du gaz naturel du Turkménistan pour la consommation dans son nord-est, tout en livrant à partir de ses propres approvisionnements à l'Azerbaïdjan dans le nord-ouest. Les négociations sur un accord d'échange entre l'Iran et la Russie ont pris un nouvel élan au début de 2022, après que les exportations de gaz de la Russie vers l'Europe ont été soumises à des sanctions occidentales en raison de la guerre en Ukraine. Le président syrien a accepté d'ouvrir deux autres points de passage frontaliers pour une période initiale de 3 mois afin de permettre la livraison de l'aide humanitaire. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé cette nouvelle lundi 13 février après que le président Assad a approuvé l'utilisation des points de passage de Bab el-Salam et al-Rai, qui relient la Turquie au nord-ouest de la Syrie, à des fins humanitaires. Conformément au décret présidentiel, les points de passage seront ouverts pour une période initiale de 3 mois afin de permettre l'acheminement rapide de l'aide humanitaire. Le président syrien a donné son aval à l'ouverture des deux autres points de passage frontaliers juste après que l'ONU a déploré qu'un groupe antigouvernemental qualifié de terroriste par la communauté internationale ait empêché l'acheminement des envois d'aide vers les régions touchées par le séisme dans la partie nord de la Syrie. Le porte-parole du Bureau d'aide humanitaire de l'ONU a déclaré dimanche qu'il y avait des obstacles dressés par un groupe identifié comme étant le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, HTC. Le secteur nord de la Syrie, qui est actuellement sous le contrôle du HTC, a reçu peu d'aide humanitaire, car les terroristes ont fermé les lignes de front sur le gouvernement, malgré l'annonce la semaine dernière par Damas de sa volonté d'envoyer de l'aide dans cette région. Dimanche, Reuters a cité une source du HTC qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat, confirmant que l'organisation terroriste ne laisserait pas entrer les expéditions en provenance des parties de la Syrie contrôlées par le gouvernement, alléguant « Nous ne permettons pas au régime de profiter de la situation pour montrer qu'ils aident ». Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a envoyé davantage de convois d'aide humanitaire dans les zones touchées par le tremblement de terre en Syrie, déplorant le faux plaidoyer des gouvernements occidentaux en faveur des droits humains. L'aide humanitaire est partie pour la ville de Latakia, dans l'ouest de la Syrie, située sur la mer Méditerranée, et aurait inclus des tentes, des vivres, des fournitures sanitaires, d'autres nécessités quotidiennes et du matériel médical. Les fournitures peuvent répondre aux besoins de milliers de personnes. Sayed Hachem Safieddine, chef du conseil exécutif du Hezbollah, a déclaré que l'acheminement d'aide sera suivi d'autres, l'aide d'aide d'urgence à Alep et ailleurs dans les régions dévastées par le séisme en Syrie. Les victimes du tremblement de terre ont désespérément besoin d'aide. La Syrie a toujours été à nos côtés en cas de besoin, a déclaré Safieddine, soulignant que le Hezbollah soutiendra les Syriens et ne les laissera pas sans aide tout au long de la situation difficile actuelle. L'Occident a montré son vrai visage pendant la crise et a exposé ses faux gestes en matière de droits de l'homme, a noté le haut responsable du Hezbollah. Auparavant, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Sheikh Naïm Rassem, avait déclaré à la chaîne de télévision libanaise Al-Manar que tous les pays du monde devaient se précipiter pour envoyer de secouristes, du matériel et de l'aide pour assister les victimes du tremblement de terre qui a fait près de 40 000 morts en Syrie et en Turquie. Le groupe terroriste Daesh a tué dimanche 12 février 11 des 75 personnes qu'il avait enlevées la veille dans l'est du pays, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une femme et un membre des forces gouvernementales syriennes font partie des victimes. Les 75 travailleurs ont été kidnappés samedi par Daesh près de la ville de Palmyre alors qu'ils ramassaient des truffes. Le destin des 64 autres personnes enlevées demeure inconnu pour l'heure, a noté l'organisme. Le SDH a expliqué que Daesh avait profité du fait que les regards du monde entier étaient tournés vers les séismes dévastateurs qui ont récemment frappé la Turquie et la Syrie pour tuer les victimes. Les terroristes daéchistes se sont emparés de la région désertique de l'est de la Syrie pour s'en faire un refuge après les lourdes pertes qu'ils ont subies en 2018. Ils attaquent et enlèvent régulièrement des civils et des soldats dans la région. Les forces américaines déployées en Syrie recrutent et entraînent des dizaines de terroristes Takfiri pour mener des attaques en Russie et dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Les forces américaines entraînent actuellement au moins 60 terroristes affiliés au groupe terroriste Daesh et Al-Qaïda dans la base militaire d'Al-Tanf, a annoncé lundi le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, SVR, qui ajoute que 60 de ces terroristes ayant une expérience de combat au Moyen-Orient ont été sélectionnés au mois de janvier pour être formés dans cette base située dans la province méridionale de Homs, en Syrie, près des frontières avec l'Irak et la Jordanie, avec pour mission de mener des attentats terroristes en Russie et dans des pays de la Communauté des États indépendants, CEI, composée de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques. Selon le SVR, ces terroristes suivent une formation intense pour apprendre à fabriquer et utiliser des engins explosifs improvisés, en plus de méthodes subversives pour mener leurs attaques. Toujours selon le SVR, les attaques terrestres seront menées en coopération avec des cellules clandestines de factions terroristes internationales telles que les groupes extrémistes Hizb Tahrir et Jamaat Ansarullah, également connus sous le nom des Tadjikistani Talibans, tous deux interdits en Russie. Dans ces entraînements, il y a eu une préférence pour la mise à contribution des natifs du Caucase du Nord et de l'Asie centrale, précise le SVR, et de souligner que de tels stratagèmes démontrent l'absence totale de tout principe moral dans les services de sécurité américains. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.